Alors frères et sœurs, ce matin je vais commencer ce message en vous partageant une allégorie. Pour ceux qui ne savent pas, une allégorie, c'est en fait l'expression d'une idée à l'aide d'une image. D'ailleurs dans la Bible, le Seigneur en utilisant des paraboles au final a utilisé des récits allégoriques, on pourrait dire, sauf qu'il y avait un enseignement aussi derrière. Donc celle que je vais vous partager ce matin s'appelle l'allégorie du jambon. Elle provient a priori d'un professeur de psychologie québécois. Alors pourquoi elle s'appelle comme ça? Simplement parce qu'elle fait référence au plan traditionnel qui est préparé pour Pâques au Québec, qui est donc un jambon plutôt qu'un agneau pascal, comme on le fait plutôt en France. Alors voici donc cette histoire. Une dame prépare son jambon. Avant de le faire cuire, elle coupe et jette les extrémités du jambon, bien que celle-ci soit parfaitement comestible. Perplexe, son conjoint lui demande pourquoi elle agit ainsi. « Je ne sais pas, j'ai toujours fait comme ça. C'est la recette de ma mère. » Curieux, le mari consulte sa belle-mère, à qui il demande de lui expliquer sa recette de jambon. Elle détaille alors sa recette, dans laquelle elle coupe également les deux bouts du jambon dont elle dispose avant de mettre à rôtir. Encore une fois, le gendre la questionne afin de connaître le pourquoi de cette étape. « Je ne sais pas, j'ai toujours fait comme ça. C'est la recette de ma mère. » Fort heureusement, et bien que d'un âge avancé, la mère de cette dame est toujours en vie. De plus en plus intrigué, le gendre décide d'aller la consulter et l'interroge précisément sur la raison pour laquelle il importe donc de tronquer les extrémités du jambon avant de le mettre au four. Mais pas besoin de couper les bouts. Moi je le faisais à l'époque uniquement parce que mon chaudron était trop petit. Alors si je vous ai lu cette petite histoire ce matin, c'est parce qu'elle illustre bien, je trouve, le fait de perpétuer quelque chose sans jamais la remettre en question. Elle nous rappelle qu'une façon de faire, une tradition aussi, peut passer de génération en génération et ainsi demeurer même si celle-ci perd en fait sa raison d'être initiale. Et c'est cette pensée qui m'amène au thème que je souhaite aborder avec vous ce matin qui est la scène. Dans notre église locale, nous prenons la scène chaque dimanche. Alors pourquoi chaque dimanche? Est-ce que cette fréquence nous a été donnée par Dieu dans sa parole? En soi, pas explicitement, et non, je dirais. Il n'y a pas de commandement vraiment explicite qui nous imposerait une fréquence particulière pour partager la scène. Si on regarde un peu autour de nous dans le monde évangélique, on peut en trouver, ou trouver dans certaines églises où, qui ont souhaité avoir une fréquence très éloignée dans leur pratique de la scène, pour diverses raisons. D'autres qui soutiennent que, puisque Jésus semblait prévoir que cette pratique serait régulière, parce que dans 1 Corinthiens, il nous dit bien « toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe ». Et aussi, puisque nous pouvons aussi nous attendre à ce que la Sainte Cène soit destinée à nous faire spirituellement du bien, il y a alors d'importantes raisons de maintenir cette pratique hebdomadaire. Mais d'autres encore se sont mis aussi d'accord justement sur un juste milieu qui consiste à observer cette ordonnance de manière mensuelle, par exemple. Il semble y avoir peu de raisons d'instaurer une règle absolue à ce sujet, même si en soi, ceux qui voudraient réduire considérablement la fréquence de la pratique de la Sainte Cène devraient peut-être quand même se demander ce qui les motive à le faire. En effet, sans vouloir aller de suite vers le sens de la scène, je vais y venir après, le Seigneur voulait-il que l'on se souvienne régulièrement de sa mort ou juste de manière occasionnelle, comme une fois par mois ou voire encore sur des espaces plus longs? C'est une question qu'on peut se poser. Mais aussi pour ceux qui observent cette ordonnance de façon hebdomadaire, ce qui est notre cas, il est important également de s'assurer que cette fréquence ne dérive pas vers la mise en place d'un rite, ou que cela ne diminue pas la signification aussi de la Sainte Cène. C'est important de ne pas tomber dans une routine du dimanche. On se lève, je prends le vin, on prend le pain, en sachant dans les grandes lignes pourquoi, mais sans penser réellement à ce que la scène représente. C'est important de comprendre pourquoi le Seigneur nous a donné cette ordonnance en revenant à ce qu'elle signifie. Et pour cela, je propose ce matin de prendre justement le passage que nous lisons chaque dimanche avant ce moment, qui se trouve donc dans 1 Corinthiens au chapitre 11, du verset 23, puis on va aller jusqu'au verset 32. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Avant d'aller plus loin, et pour bien comprendre aussi la suite, frères et sœurs, rappelons-nous déjà ceci. Ce repas a été institué par le Seigneur. Il ne s'agit pas d'une ordonnance venant de l'Église, mais venant de Jésus lui-même. Qu'est-ce que ça signifie ? Simplement que l'Église n'a donc aucune autorité pour changer cette ordonnance, ou pour essayer d'en redéfinir le sens. Notre seule et unique volonté, ce doit donc d'être celle-ci, revenir à l'origine de cette ordonnance qu'il a instituée à la toute fin de son ministère, et revenir à ce qu'il nous a lui-même donné donc par sa parole. C'est ce que nous allons faire en nous arrêtant sur 5 points à partir de ce texte de l'apôtre Paul. Nous allons revenir à ce que nous dit la parole de Dieu. Mais avant cela, frères et sœurs, je vais reprier avant de continuer. Oui Seigneur, je veux te prier ce matin, Seigneur, pour me placer, Seigneur, devant toi, Seigneur. Pour te demander, Seigneur, que ton esprit soit avec moi, soit avec mes frères et sœurs aussi ce matin, Seigneur. Pour m'aider à ce que mes paroles, Seigneur, mes mots, soient en fait le reflet, Seigneur, de ta volonté. Et que mes frères et sœurs, Seigneur aussi, et moi-même, Seigneur aussi, ayons un cœur et l'esprit ouvert, Seigneur aussi, sur justement ce que tu veux nous dire, ce que tu veux nous enseigner encore ce matin, Seigneur. Amen. Faites ceci en mémoire de moi. Par ces quelques mots, Jésus nous soumet une instruction, le souvenir. Et le souvenir sera le premier point sur lequel nous allons nous arrêter. Si nous regardons autour de nous, dans nos villes, nous pourrons bien souvent y trouver des monuments qui nous permettent de nous remémorer, de nous souvenir de ce qu'il s'est passé dans l'histoire du monde, comme par exemple avec les monuments aux morts qu'on peut trouver à différents endroits. Dans l'Église, nous n'avons pas de monument élevé ou à élever, mais nous avons un repas qui nous a été donné par le Seigneur pour servir de mémorial. Car c'est bien cela la fonction première de la scène, nous rappeler. Question que l'on pourrait déjà se poser, c'est pourquoi à travers un repas ? Parce que c'est vrai que dans sa grâce immense, Dieu nous a donné sa parole que nous pouvons lire chaque jour, et par elle nous savons qui est Jésus, le Fils de Dieu. Par elle, nous avons appris ce qu'il a fait pour nous. N'était-ce pas suffisant pour nous souvenir justement de tout cela ? Alors Derek Prince, qui était un homme qui a passé sa vie à enseigner la parole de Dieu, avait pour habitude de partager que lorsqu'il formait de futurs enseignants en Afrique notamment, il leur disait ceci. Les enfants se souviennent de 40% de ce qu'ils entendent, de 60% de ce qu'ils entendent et voient, de 80% de ce qu'ils entendent, voient et font. Et pour lui, le même principe pouvait s'appliquer à la scène. Les grandes vérités fondamentales du Nouveau Testament sont tellement importantes que Dieu nous a ordonné de non seulement les entendre, de non seulement les entendre et les voir, mais aussi et surtout de les entendre, les voir et les mettre en pratique. Et cette mise en pratique ici, c'est ce repas du souvenir. Alors ce repas, pour nous rappeler de quoi ? De la mort du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois que vous et moi prenons la Sainte Cène, nous le faisons, oui, en souvenir de Jésus, en souvenir de la croix, de sa mort sur la croix. Un théologien Don Carson disait cela aussi, ce qui est certain, c'est que Jésus nous invite à commémorer non pas sa naissance, ni sa vie, ni ses miracles, mais sa mort. Mais pour aller plus loin encore, je pense que Jésus ne souhaitait pas que nous nous rappelions de sa mort comme d'un simple fait historique, mais que sa volonté était que nous nous rappelions aussi et surtout du sens de sa mort. Il voulait que l'on se souvienne et que l'on comprenne que sa mort, parce que celle-ci est au cœur de l'Évangile. On ne peut pas en effet comprendre ou croire l'Évangile si on ne comprend pas la mort de Jésus. Si on ne comprend pas le pourquoi et le pour qui de ce prix immense payé au calvaire. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné ce repas, pour nous rappeler la réalité de sa mort, nous rappeler la réalité des souffrances qu'il a subies, jusqu'à son sacrifice ultime à la croix. Et un sacrifice pour qui ? Pour nous, des hommes et des femmes pécheurs, des hommes et des femmes qui ne méritions qu'une chose, le châtiment de Dieu, la colère de Dieu sur nous, en raison du péché qui est en nous et duquel il nous est impossible de nous en délivrer par nous-mêmes. Mais Jésus est venu sur la terre. Lui a vécu une vie parfaite à notre place, lui le Seigneur serviteur qui alla jusqu'à laver même les pieds de ses disciples, lui qui par sa mort est devenu sacrificateur et sacrifice pour nous, lui dont la mort a déchiré le voile de haut en bas, lui par qui je peux maintenant entrer librement dans la présence du Père. Hébreux chapitre 10 nous dit « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Alors oui, souvenons-nous, frères et sœurs. Souvenons-nous de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous. Et répondons à son invitation qui est de le proclamer également en prenant ce repas. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez, vous proclamez la mort du Seigneur. C'est au verset 26 de 1 Corinthiens 11. Proclamons ainsi que Jésus, le Fils de Dieu, est mort et a donné son sang pour notre rédemption. Par ce repas, témoignons à nos frères et sœurs, bien sûr, mais aussi au monde entier. Par ce repas, proclamons l'Évangile. Et c'est la première invitation que je vous adresse aussi, frères et sœurs, ce matin. Oui, par ce repas, proclamons notre foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ comme étant notre Sauveur. Je vais m'arrêter maintenant sur les deux éléments principaux que le Seigneur nous invite à utiliser pour ce repas, le pain et le vin. Alors les interprétations quant à la signification de la Sainte Cène et notamment sur justement ce sujet du pain et du vin diffèrent entre par exemple les catholiques ou les chrétiens protestants évangéliques. Dans la perspective catholique, lorsque le prêtre prie pour les éléments, pour le pain, pour le vin, ceux-ci deviennent alors réellement le corps et le sang de Jésus. C'est ce qu'on appelle la transsubstantiation. Parce que la substance des éléments qui est transformée, à ce moment-là, c'est la substance des éléments qui est transformée, non pas la matière elle-même. Le pain reste matériellement du pain, mais son être serait alors devenu corps du Christ, et le vin, le sang du Christ. Et toujours dans cette perspective, l'Eucharistie est alors un sacrifice non sanglant, réalisé par le prêtre, et qui actualise ou renouvelle le sacrifice du Christ pour les croyants. Ce concept de transsubstantiation ne peut être accepté, frères et sœurs. Par cette déclaration, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », Jésus souhaite en effet que nous voyions le pain et le vin non comme ayant une dimension sacrificielle, mais comme étant des symboles, comme des symboles du corps et du sang de Jésus, des symboles représentant son corps sur le point d'être brisé et son sang sur le point d'être versé pour nous. Des symboles de l'œuvre rédemptrice du Christ au calvaire. Le verbe « être » exprime un sens symbolique et non littéral, tout comme dans toutes les autres occasions où Jésus a utilisé ce verbe. N'a-t-il pas également dit « Je suis la porte des brebis »« Je suis le cep, vous êtes les sarments » ou encore « Je suis le chemin, la vérité, la vie » Le pain représente une nécessité vitale également, une nourriture fondamentale. En présentant ce pain et également ce vin, Jésus veut en réalité nous faire comprendre que nous avons besoin de lui, plus encore que de nourriture physique. Prendre la scène, c'est réaliser en effet à quel point nous dépendons du Christ pour vivre aujourd'hui, mais pour vivre également éternellement. Jean chapitre 6, versets 31-35 nous dit « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. » Et Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » En nous invitant à prendre ce pain, Jésus nous invite à le manger, lui, le pain de vie. Ce pain de vie qu'il est devenu en s'offrant à Dieu, afin de s'offrir ensuite à nous. La scène n'est pas donc le sacrifice renouvelé. Prendre ce repas n'est pas un moyen pour obtenir le salut ou le pardon de nos péchés, parce que ce pardon aussi ne peut nous être accordé que par le sang qui a coulé sur la croix, par le sang de Jésus. Jésus mort pour notre rachat une fois pour toutes, et par qui tout est accompli. Je vais lire quelques versets dans Hébreux au chapitre 10, d'abord de 5 à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi. « Pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Jésus-Christ une fois pour toutes. Au verset 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Encore un peu plus loin, en verset 14, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Voilà ce que symbolisent ce pain et ce vin. Cette offrande du corps de Jésus-Christ, mort pour notre justification, pour notre sanctification. Si le pain et le vin sont des symboles, ceci signifie donc que Jésus n'est pas physiquement présent. Ce qui est vrai. Mais pour autant, cela ne signifie pas qu'il est absent. Et au contraire, lors de la Sainte Cène, le Christ est présent spirituellement. Une véritable communion spirituelle entre le Seigneur et son Église se manifeste lorsque nous célébrons la Cène. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Jean chapitre 6. Au chapitre 10 de 1 Corinthiens, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Un seul pain, un seul corps, et la communion au corps de Christ. Le repas du Seigneur est la communion avec Dieu et avec son peuple. Lorsque nous pratiquons la scène, nous ne communions pas seulement avec le Dieu vivant au travers de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, mais nous sommes également en communion les uns avec les autres, entre frères et sœurs en Christ, entre enfants de Dieu. Alors quand nous prendrons le pain et le vin tout à l'heure, frères et sœurs, souvenez-vous aussi que partager ce pain ensemble est un signe de notre unité fondamentale en Jésus-Christ. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Matthieu chapitre 26 le dit ainsi, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Le troisième point sur lequel nous allons nous arrêter parle encore d'un symbole, celui d'une nouvelle alliance. Alors, quel est le rapport entre le sang de Jésus et la Nouvelle Alliance ? Pour le comprendre, il est important de revenir aux origines de la scène. D'ailleurs, au moment où le Seigneur prend ce pain, dans Luc, on le lit bien, c'est Jésus dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Le dernier repas que Jésus prend avec ses disciples, juste avant sa trahison et son arrestation, est le repas traditionnel de la Pâque du temps de l'Exode. Parce qu'un des événements majeurs qui concerne le peuple de Dieu est lié à l'œuvre de délivrance accomplie par Dieu lors de l'Exode, délivrance du peuple d'Israël d'Égypte après 400 ans d'esclavage. À ce moment-là de l'histoire du peuple de Dieu, ce passage vous pouvez le lire au chapitre 12 du livre de l'Exode, Dieu vient juger le pays d'Égypte pour les mauvais traitements infligés à Israël, mais ce faisant, il fournit d'abord à son peuple un moyen de salut. Un agneau doit être abattu, et son sang doit être répandu sur les cadres des portes des maisons du peuple de Dieu. Et lorsque l'ange de la mort passe, les maisons sur lesquelles le sang de l'agneau est visible sont alors épargnées par le fléau de la mort du fils premier-né. Très concrètement, l'agneau meurt à la place du fils premier-né de la maison. Et cette même nuit, le peuple d'Israël mange le repas, constitué d'agneaux, accompagné d'herbes amères et de pain sans levain, alors qu'il se prépare à fuir. Et ce repas de la Pâque, Pâque qui signifie le passage, devient ensuite un constant rappel du grand salut que Dieu a apporté au peuple de son alliance par un grand acte de jugement. En célébrant la Pâque avec ses disciples, Jésus ne s'est pas contenté de maintenir donc ce repas. Il lui a donné une nouvelle signification liée à sa mort imminente. Ce repas de la Pâque, qui représentait donc l'alliance de Dieu par le sang des agneaux, a été remplacé par une alliance nouvelle par le sang de Christ. Avec Jésus, nous n'avons plus besoin du sang des agneaux, comme le peuple de Dieu l'avait utilisé sur les linteaux, tout comme d'ailleurs nous n'avons plus besoin du sang d'animaux versé lors des sacrifices. Le sang de Jésus suffit. Qu'a dit Jean-Baptiste en voyant Jésus ? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a plus besoin d'agneaux par milliers. Alors que la première alliance était là pour mettre en évidence en fait, la conséquence du péché, pour décourager chacun de croire qu'il peut se sauver aussi lui-même, alors que sous l'ancienne alliance on ne pouvait s'approcher de Dieu que par l'intermédiaire d'un prêtre et du sacrifice d'un animal, maintenant nous pouvons nous adresser librement à Dieu, par la foi, car la mort de Jésus nous a rendus justes à ses yeux. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la foi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains au chapitre 3. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Ceci se trouve dans le livre du prophète Jérémie. Le prophète Jérémie qui l'avait annoncé. Une alliance nouvelle allait venir. Une alliance qui changerait le cœur de ceux qui en bénéficieraient. Une alliance faite avec la maison d'Israël et la maison de Juda, par le sang de l'alliance, par le sang de Christ répandu pour beaucoup. Le texte nous dit « pour beaucoup » dans Matthieu 26, il ne dit pas « pour tous » parce qu'il s'adresse, en fait celui-ci est destiné aux membres de l'Alliance, ce que j'ai dit tout à l'heure aussi dans un des versets, à ceux qui croient en lui. Alors frères et sœurs, participer au repas du Seigneur, c'est aussi une marque visible de notre élection, de notre appartenance à cette Alliance. Alors lors de ce moment, nous pouvons aussi nous réjouir. Réjouissons-nous également de cette grâce que Dieu nous a faite. Réjouissons-nous d'être au bénéfice de ce pardon et de cette vie qu'il nous a accordée, à nous qui croyons en son Fils Jésus-Christ. Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Jean chapitre 11. J'en arrive au quatrième point. 1 Corinthiens 11, verset 26, que je vais relire, nous dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Jésus revient. Et par la scène, nous proclamons le retour de Christ, la promesse de son retour. Pour reprendre un autre commentaire de Don Carson, il a pu dire « De même que la première Pâque attendait non seulement la délivrance, mais aussi l'établissement dans la terre promise, le repas du Seigneur anticipe la délivrance et la vie dans le royaume éternel. Les disciples célébreront ce repas jusqu'à la venue de Jésus, mais celui-ci n'y participera plus avec eux jusqu'à la consommation finale, lorsqu'il s'assiera avec eux au banquet messianique dans son royaume, le royaume de son Père. La scène renvoie donc à la fois au passé et à l'avenir, au sacrifice de Jésus au calvaire et au banquet messianique. Et la scène nous a en effet été donnée par le Seigneur pour garder l'Église en fait de deux façons. En nous invitant à regarder derrière, comme nous l'avons vu tout à l'heure, à regarder à la croix. Et regarder à la croix permet en effet à l'Église de rester centrée sur Christ. Mais elle nous invite aussi également à regarder devant nous, au retour de Christ. Et en faisant cela, nous sommes alors un peuple orienté sur le règne à venir de notre Seigneur Jésus-Christ, sur sa gloire à venir et sur l'éternité. L'accomplissement ultime du plan du salut de Dieu est depuis longtemps associé à la promesse d'un grand festin. On le lit aussi dans Ésaïe au chapitre 25. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle, de vin vieux clarifié. Lorsque nous prenons le repas du Seigneur, nous anticipons les noces de l'agneau, où nous serons tous ensemble dans la gloire, et où notre Sauveur nous servira encore une fois tout ce dont nous avons besoin. Jésus lui-même, lorsqu'il a institué la scène, y a pris part, en prévision et d'ailleurs et en se projetant vers cet avenir. On le voit dans Matthieu 26 encore, c'est bien écrit aussi. « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Quelle joie de pouvoir venir à la table du Seigneur. Apocalypse chapitre 19 nous dit aussi « L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Puis il me dit « Ses paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Donc oui, la Sainte Cène est en quelque sorte un avant-goût de ce grand festin, en même temps qu'elle nous rappelle l'unique fondement de notre espoir d'y participer, Jésus-Christ. Pour terminer, comme le fait l'apôtre Paul sur un dernier point important, je vais terminer sur un dernier point important, qui est notre attitude pendant la scène. Un sujet important parce que c'est en effet très bien de savoir, de comprendre ce que représente le repas du Seigneur, mais cela ne serait pas suffisant si nous ne veillons pas à la manière dont nous l'apprenons. Alors je vais d'abord, pour bien vraiment aussi comprendre cette partie, repréciser pour qui ce repas a été donné, encore une fois. Alors pour cela, si vous regardez dans les différentes églises aujourd'hui, vous pourriez observer d'ailleurs plusieurs façons de faire, plusieurs manières de tenir la table du Seigneur. Soit en tenant une table ouverte, c'est-à-dire que tout le monde y est invité, membre de l'église comme toute personne extérieure. Soit en tenant ce qu'on appelle une table fermée, où seuls les membres de l'église locale peuvent y participer. Soit encore avec une table semi-fermée, on pourrait dire. La table n'est pas ouverte à tous, mais pas non plus uniquement aux membres de l'église locale. Et des critères pourraient être posés alors pour déterminer qui peut ou ne peut pas participer à ce repas du Seigneur. Dans les deux derniers cas, que ce soit fermé ou semi-fermé, le but visé en refermant donc cette table du Seigneur, c'est le même. Éviter que quelqu'un ne mange le repas indignement. Vous allez peut-être me dire que dans Matthieu 26, verset 27, il nous est dit « Buvez-en tous ». Mais quand Jésus dit cela au mot « tous », nous pourrions aussi ajouter « vous tous, mes disciples ». La scène n'est pas en effet destinée à tout le monde, mais bien uniquement aux véritables chrétiens. Aux véritables chrétiens, c'est-à-dire à ceux qui croient au Seigneur Jésus, qui confessent le nom de Jésus, qui posent leur confiance en Jésus-Christ, Fils de Dieu. À ceux qui vivent alors dans la lumière du Christ, c'est-à-dire dans l'obéissance. 1 Jean 1,7 nous dit « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion ». Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. À ceux aussi qui suivent aussi le commandement de Dieu qui est « Aimez-vous les uns les autres entre frères et sœurs en Christ ». Une personne qui ne croit pas en Christ, qui ne comprend pas l'Évangile, ou encore qui n'a pas démontré qu'elle comprend l'Évangile, ne devrait pas venir manger à la table du Seigneur. Et comment reconnaît-on qui est ce type de personne, ce véritable chrétien, pour dire s'il peut ou non participer à la scène? Seul Dieu connaît le cœur de chaque homme, de chaque femme qui se présente devant sa table. Ça, c'est vrai. Mais pour autant, je pense personnellement que le baptême pourrait être, ou j'irais même jusqu'à dire, devrait être la réponse à cette question. Le baptême marque l'entrée dans l'Église de Dieu, l'entrée dans l'Alliance. Le baptême est la marque de ceux qui ont confessé Christ et qui ont fait ce pas de foi initial et nécessaire. La marque visible donnée par le Seigneur pour identifier son Église, ceux qui lui appartiennent. Donc oui, garder le baptême comme première condition d'accès à la table me semble personnellement être vraiment une bonne façon de garder la table du Seigneur. N'importe qui pourrait dire qu'il croit en Dieu, mais si cette personne ne souhaite pas ou ne veut pas se faire baptiser, qu'est-ce que ça signifie ? Le baptême est la première ordonnance que le Seigneur nous ait donnée, et même ordonnée. Et encore une fois, comme acte public d'identification au Seigneur Jésus-Christ et à son corps. Et sans cet acte d'identification, un croyant ne peut prétendre à une place dans le corps de Christ. Marc 16, verset 16 nous dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Un baptême qui doit procéder de notre foi en Jésus-Christ et en lui seul. Nous le voyons bien d'ailleurs dans le livre des Actes, aussi au chapitre 19, nous pouvons voir l'exemple d'un premier baptême qui, si je peux le dire ainsi, n'était pas suffisant, parce que celui-ci n'était pas fait selon une profession de foi en Jésus. Je vous laisserai le lire, c'est acte 19, verset 5. Mais même si nous sommes baptisés, rappelons-nous à chaque fois que la scène a été instituée par Jésus-Christ pour représenter la communion d'un peuple racheté réuni à sa table. Et en tant que peuple racheté, nous devons donc veiller à la manière dont nous nous présentons à sa table. Je vais relire 1 Corinthiens 11, du verset 27 à 32. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Et si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Par ces paroles, nous pouvons comprendre que ce même repas qui est une bénédiction peut aussi devenir une condamnation. Et coupable, mange et boit un jugement contre lui-même. L'attitude de chaque participant, l'esprit avec lequel nous allons participer à ce repas, ces deux points sont extrêmement importants. La scène n'est pas n'importe quel repas, il ne faut pas oublier ceci. Le Seigneur connaît et observe chacun de nous, chaque cœur, chaque personne présente à sa table. Alors ne mangeons ou ne buvons donc pas le repas du Seigneur indignement. Pour bien comprendre aussi ce que Paul voulait dire avec ce mot indignement, il faut commencer par se rappeler qu'à l'époque des apôtres, la scène était célébrée comme le Seigneur l'a instituée, c'est-à-dire en la faisant précéder d'un repas pris en commun. À Corinthe, cet usage n'avait pas tardé à dégénérer sous l'influence d'un esprit de division. Les riches apportaient une grande profusion à partager entre eux, entre riches, tandis que les pauvres n'avaient pas même de quoi se nourrir. On le voit juste avant le passage dans 1 Corinthiens 11 aussi. La scène à la suite de cela, donc, forcément ne pouvait qu'être indignement profanée. D'ailleurs, 1 Corinthiens 11, 20, l'apôtre Paul dit « Lorsque vous réunissez ainsi, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. » Et c'est pour cela que l'apôtre les reprend sur ces abus, avant de leur rappeler l'institution de la communion aussi dans sa simplicité, dans sa sainteté, afin de faire mieux sentir aussi à ses lecteurs, via cette lettre, que par ce contraste, de quoi ils se rendaient coupables et quel châtiment ils attiraient aussi sur eux. Et nous, aujourd'hui, Sommes-nous comme les Corinthiens? Prenons-nous aussi le repas du Seigneur indignement? Indignement, car nous garderions quelque chose de mauvais dans notre cœur, comme un esprit qui ne pardonne pas. Jésus, lui, nous a pardonné pleinement, et par la scène, nous identifions à Christ. Nous ne pouvons donc pas participer à la scène et garder dans notre cœur un non-pardon vis-à-vis de quiconque. Indignement, parce que nous prendrions la scène sans y penser, de manière incrédule, comme un simple rituel aussi, comme j'ai évoqué tout à l'heure, dénué de sens. Non, nous devons prendre la scène en étant passé par la croix, en ayant compris l'efficacité du sang de Jésus-Christ, en étant passé par la repentance. Indignement aussi, parce qu'on la prendrait de manière fausse, en ayant la prétention d'être dévoué envers Jésus devant les autres, devant nos frères et sœurs, en disant « Regardez, j'aime le Seigneur, je suis là, je suis croyant. » Mais derrière, en vivant une vie païenne tout le reste de la semaine. Indignement aussi, car sans obéissance envers Christ, sans repentance aussi, encore une fois, de nos péchés. En disant cela, je ne veux pas vous faire croire ce matin que la Sainte Cène est uniquement pour des personnes parfaites, parce que vous le savez tous, cela nous est impossible. Seul Jésus a pu vivre cette vie parfaite, exempte de tout péché, et nécessaire aussi pour satisfaire à la justice de Dieu par son sacrifice à la croix. Cela ne veut pas donc dire que si nous avons péché cette semaine, nous ne pouvons pas participer à la scène, mais cela veut dire que si vous avez péché cette semaine, il faut vous demander, est-ce que je me suis repenti? Est-ce que je cherche à abandonner mon péché? Celui-ci aussi est plus souvent sous la forme d'une addiction. Est-ce que je vis dans la désobéissance ouvertement, ou est-ce que j'en souffre et je veux vraiment me repentir devant Dieu? Il est important effectivement de se sonder avant de participer au repas du Seigneur, de se remettre en règle avec Dieu, de se préparer en se regardant dans le miroir de la parole de Dieu. Y a-t-il quelque chose dans ma vie qui t'aurait offensé, Seigneur? La scène nous a également été donnée comme un moyen de grâce pour la sanctification, pour nous garder justement obéissants à Christ en tant qu'enfants de Dieu, en nous forçant aussi justement à regarder à nous à travers sa parole. Participer à la scène de cette manière permet de nous garder fidèles dans la foi, dans sa parole. Cela permet également d'empêcher l'incrédulité, l'orgueil, la malhonnêteté, le refus de pardonner et de s'installer en nous. Voici comment Jean Calvin décrit ce qu'est une participation digne au repas du Seigneur. Ainsi, la seule condition suffisante pour nous présenter devant Dieu est celle-ci. Lui offrir notre misère et notre indignité, afin que par sa miséricorde, il nous rende dignes de lui. Être troublé en nous-mêmes, afin d'être consolé en lui. Nous humilier en nous-mêmes, afin d'être exalté en lui. Nous accuser nous-mêmes, afin d'être justifié en lui. Dans un autre commentaire, il le dit aussi ainsi. Cette épreuve de soi-même consiste à s'assurer que l'on a une vraie repentance et une vraie foi. Non pas une repentance et une foi parfaite, car à ce compte tous les hommes seraient toujours retenus loin de la scène, mais si, aspirant du fond du cœur à la justice qui vient de Dieu, humilié par le sentiment de ta misère, tu te confies et t'abandonnes tout entier à la grâce de Christ, tu es un convive dignement préparé pour t'approcher de cette table. En effet, celui-là est digne que le Seigneur n'exclue pas, alors qu'il lui resterait beaucoup à désirer encore. Car la foi, même dans ses commencements, rend digne les indignes. Alors oui, la scène devrait susciter un jugement de l'Église sur elle-même. Et si nous ne le faisons pas, comme il est écrit, Dieu s'en chargera. Alors frères et sœurs, par ce partage ce matin, j'espère que cela vous aura permis de mieux comprendre, ou de vous rappeler, de me rappeler ce que représente la scène et pourquoi notre Seigneur l'a instituée pour nous, ses enfants. Il l'a instituée, oui, pour résumer, pour que nous puissions, par ce repas simple, à l'aide du pain et du vin, nous souvenir et proclamer la mort du Seigneur pour le pardon et la délivrance de nos péchés, avec un cœur reconnaissant envers lui. Partagez cette communion avec le Seigneur et avec tous nos frères et sœurs en Christ. Proclamez son retour par ce rappel de sa promesse d'une vie éternelle dans son royaume à venir. Et restez focalisés sur l'essentiel. Christ crucifié, Christ régnant. Amen.